Bonjour, il y a quelques semaines déjà, Catherine est allée au congrès du SIP, la Société d'information psychiatrique, pour plus de 2 jours de conférence à destination des psys. Dans cet épisode, elle nous fait le compte-rendu de ce qu'elle a appris avec ses coups de cœur, mais aussi ses coups de gueule. À la base, on voulait vous proposer un vlog avec des images des conférences, de Dijon, la ville où se déroulait le congrès, mais on a eu des problèmes de son et d'image. Du coup, on préfère vous proposer ce compte-rendu en podcast. Allez, c'est parti pour le débrief.
Fin septembre, je me suis rendue au congrès du SIP, c'est la Société d'information psychiatrique, et je propose de vous faire un résumé de ce que j'ai compris et appris de ce congrès. Pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais vous donner envie à vous aussi d'aller, si vous êtes psychologue, dans des congrès pour pouvoir un petit peu découvrir un certain nombre de choses qu'on découvre pas forcément quand on est en formation. Et puis ça permet aussi de faire de la veille scientifique, c'est-à-dire voir quelles sont les évolutions dans les domaines dans lesquels je travaille. C'était la première fois pour moi que j'allais à un congrès de la Société d'information psychiatrique, pourtant ça fait un certain temps qu'ils existent. Et donc le thème cette année, c'était les troubles de la personnalité. Alors si vous connaissez un petit peu nos vidéos, vous savez que c'est un thème qui m'intéresse particulièrement, mais les troubles de la personnalité, dans les approches avec lesquelles je travaille, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à appréhender. Parfois, on va dire que en fait, ce sont des diagnostics fourre-tout, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à trouver d'autres diagnostics spécifiques, ben, on va donner ceux-là, et c'est des diagnostics qui ne sont pas faciles à traiter. Et puis, dernièrement, dans la CIM, qui est la classification internationale des maladies, qui vient de l'OMS, il y a eu des modifications dans la manière de faire le diagnostic des troubles de la personnalité, que ce soit des troubles de la personnalité, donc borderline, mais aussi les troubles de la personnalité narcissique, antisociale, etc. Qu'est-ce qui change? Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo-là, parce que on en a parlé évidemment à ce congrès. Donc là ici, le congrès se déroulait sur 3 jours, et le premier jour, donc c'était une conférence d'introduction, c'était une conférence plénière sur un sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant, d'autant que je m'attendais mais pas du tout à ça, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Vraiment, j'ai découvert un métier dont je ne soupçonnais même pas l'existence. En fait, la personne qui donnait la conférence était historien des sensibilités. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas psychologue ni psychiatre, mais qui est historien. Et il fait l'histoire de quoi? De notre manière d'être sensible au monde, et qui fait que parfois cette sensibilité peut nous créer des problématiques, parce que si elle vient notamment d'un système de stress qui s'est dérégulé, ou bien si elle crée un système de stress dérégulé, je vais vous dire un petit peu plus, du coup ça peut générer aussi des troubles. Alors c'est une conférence qui m'a beaucoup marquée, et du coup j'ai pris beaucoup de notes pour pouvoir les relire après à tête reposée, et puis j'ai aussi acheté le livre de la personne qui donnait la conférence parce que vraiment je trouvais que le sujet méritait d'être approfondi. Donc il s'appelle Hervé Mazurel. Le titre, j'ai failli pas acheter le livre parce que le titre me paraissait un peu psychanalytique, et si vous me connaissez, vous savez que la psychanalyse c'est pas une approche qui me parle, et elle est parfois reconnaissable par un certain type de vocabulaire et un certain type de tournure de phrase. Et donc là, je trouvais que ça faisait un peu psychanalytique. Alors c'est pas que faux, il y a des éléments psychanalytiques, mais c'est vraiment de l'histoire. Comme vous voyez, il est assez gros, donc je pense pas que je le proposerai dans un psychobook, si vous connaissez pas le psychobook, donc c'est les lectures communes pour lesquelles je vous fais voter. Je vous propose 3 livres de psychologie, et puis vous votez pour ceux qui vous intéressent le plus, et puis dans le mois ou les 2 mois, ça dépend combien de temps parfois on met pour les lire, en fait on les lit ensemble et puis ensuite on fait un débrief. Ce qui était pour moi un peu révolutionnaire, c'était de dire que notre sensibilité, et pas que nos émotions, notre sensibilité, elle est aussi sociale. C'est évident pour tout le monde que notre sensibilité pourrait être en partie génétique et en partie liée au traumatisme qu'on a vécu, aux relations qu'on a pu avoir avec nos parents et dans notre famille, mais ce serait aussi social, c'est-à-dire que c'est culturel finalement. Il y a des émotions qui, dans certains pays, ne sont pas du tout acceptées. Par exemple, il donnait une situation au Japon où, quand on parle de quelque chose de triste, on n'a pas le droit de montrer sur son visage qu'on est triste, on doit sourire quand on parle de quelque chose de triste. Donc la tristesse a une place particulière dans cette société, et ça a un impact aussi sur les individus, parce que comme dans notre système nerveux on ressent de la tristesse, ça fait partie des émotions que notre système nerveux est capable de nous faire ressentir. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on peut pas l'exprimer? Ça va jouer sur notre développement de notre personnalité et notre vision des choses. Et vraiment, j'ai apprécié le fait qu'il a rappelé que parfois en psychopathologie et dans nos études en psychologie et en psychothérapie, peut-être vous l'avez remarqué si vous êtes patient ou patiente, on oublie parfois de prendre en compte les faits sociaux sur l'impact de notre sensibilité, de notre façon de ressentir les choses, de voir les choses, de comprendre les choses, et que c'est hyper important de l'avoir aussi en tête, que c'est pas que des choses qui viennent de l'intérieur de nous ou de notre petit cercle familial, ça joue bien sûr, mais il y a aussi toute la société et la culture qui vont façonner un petit peu notre manière de ressentir. Et puis, il disait aussi que nos émotions, elles sont sociales parce qu'elles nous permettent de transmettre des messages. Dans certaines cultures, si on va en Italie par exemple, on peut transmettre un désaccord par une très grande colère, alors que dans d'autres pays, un désaccord, on n'aura pas le droit de le dire directement, on n'aura pas le droit de manifester cette colère. Donc, il y a aussi un apprentissage de comment on exprime les messages avec des émotions qu'ils impriment ou pas sur notre visage. Et donc, parfois, ça peut être décorrélé de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qu'on ressent, et ça peut créer des problèmes. Si vous avez aussi suivi nos dernières lettres psy qui sont sorties ces dernières semaines, vous avez vu que j'avais proposé aussi un article sur l'adaptation de l'EMDR dans 5 pays d'Afrique, et vous voyez comment il y a des choses qu'on fait nous en France en EMDR, qui en fait sont pas du tout possibles dans ces pays-là, parce que la culture est très différente, notamment elle est collectiviste, et nous on a une société individualiste, et donc il y avait des choses qui étaient pas transmissibles, enfin on pouvait pas utiliser l'EMDR comme on le fait en France dans ces pays-là. Et donc voilà, c'est cette question sociale et culturelle de la psychopathologie, elle m'intéresse vraiment parce que je trouve que ça a un impact dans nos cabinets, non seulement pour nos patients qui vivent dans la même culture que nous, donc celle qu'on comprend de manière intuitive, je pourrais dire, parce qu'on a grandi dedans. C'est important aussi de pouvoir prendre un peu de recul et de voir comment leurs troubles s'inscrivent aussi dans cette culture-là. Et puis aussi pour les patients et les patientes qui ne sont pas de la même culture, ça nous permet aussi de ne pas chercher à imposer des façons de voir les choses qui seraient perçues comme éventuellement universelles, parce que ben, y a assez peu de choses finalement qui sont universelles en psychopathologie, et donc voilà, c'est très important de prendre en compte aussi leur culture sur le développement de leur pathologie, et surtout quand ils se sont exilés dans une autre culture, ben, ça va créer aussi peut-être parfois des dissonances en eux, ou des problèmes de communication, ou des problèmes d'expression qui vont être très importants à prendre en compte et qui seront notamment culturels.
Hey, c'est Fabien. Comme à chaque épisode maintenant, je vais vous parler de notre lettre psy. Ben oui, il paraît qu'il y en a parmi vous qui nous écoutent et qui ne sont pas abonnés, alors ben, je vais continuer à en parler. Si vous ne la connaissez pas encore, la lettre psy, c'est un email que l'on écrit Catherine et moi. Nous y parlons de psychologie et de psychothérapie à travers 3 articles et une citation. Nous l'envoyons toutes les 2 semaines, et dedans, il y en a pour tous les goûts. Catherine s'occupe des sujets pointus qui raviront les pros et les passionnés, et moi j'écris des articles plus mainstream sur mes découvertes du monde de la psychologie et de la psychothérapie. Pour vous donner une idée, dans la dernière édition, Catherine a écrit un article sur les troubles de la personnalité narcissique en thérapie, et quant à moi, j'ai écrit un billet sur une étude scientifique qui a découvert un nouveau moyen de traiter l'angoisse, et un autre qui s'intitule « Avez-vous des psychopathes dans votre entourage ?». Pour vous abonner, ça ne prend que quelques secondes, et il suffit de laisser votre email sur notre site internet catherineapsy.com. D'ailleurs, l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez même le faire en écoutant cet épisode. Allez, maintenant je redonne la parole à Catherine.
Alors la deuxième intervention était sur la présentation d'une recherche sur les troubles de la personnalité. J'ai pas grand chose à vous en dire parce qu'en fait c'était extrêmement technique. Je suis très intéressée par la recherche, si vous me suivez depuis un certain temps ou si vous êtes abonné à nos lettres psy, vous savez que je lis pas mal d'articles scientifiques pour me tenir au courant de comment évoluent les approches avec lesquelles je travaille, et puis aussi le concept de traumatisme et comment il s'inscrit en nous, puisque c'est la spécialité que j'ai à mon cabinet de prise en charge des traumatismes psychiques. Mais par contre je ne suis pas chercheur. Ça veut dire que je ne travaille pas moi dans la recherche, et il y a des termes qui sont propres à cette activité-là, qui sont très techniques, et là, la personne qui présentait la conférence était très technique, et elle n'expliquait pas forcément les termes qu'elle utilisait, donc ça m'a un petit peu perdue, et puis à la fin, en plus, la personne a expliqué que les résultats n'étaient pas encore sortis, donc du coup, ça m'a pas permis de raccrocher en me disant, le résultat est vraiment intéressant, donc voilà, ce sera peut-être à reprendre plus tard, mais là-dessus, j'ai pas grand-chose à vous en dire. La troisième intervention de la première journée m'a particulièrement intéressée parce qu'elle a parlé des changements justement qui sont en train de se faire dans la manière de diagnostiquer les troubles de la personnalité. Donc à nouveau, si vous avez déjà vu notre vidéo sur les troubles de la personnalité borderline et leur diagnostic complexe, vous savez un petit peu de quoi je parle, mais là je vais en dire un petit peu plus. Donc là, l'intervenant était Marc-Antoine Croc, vous le connaissez peut-être si vous avez lu des choses sur le DSM, puisque il fait partie des traducteurs du DSM, et notamment là, il a participé à la traduction de la révision du DSM. On appelle ça donc le DSM-5-TR, donc c'est texte révisé en fait. Là aujourd'hui on en est au DSM-5, il est en vigueur depuis 2013, et donc là il y a la révision qui est sortie, et la traduction en français va arriver en fin d'année, et j'étais très intéressée de savoir ce qu'il y a dedans. Il nous en a dit quelques mots. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, donc dans la CIM, dans sa dernière version, la classification internationale des maladies, dans sa version 11 qui est entrée en vigueur en janvier 2022, il y avait déjà un énorme changement dans la manière de diagnostiquer les troubles de la personnalité, parce qu'on est passé de ce qu'on appelle un diagnostic catégoriel à un diagnostic dimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez déjà travaillé avec le DSM, vous savez que dans le manuel diagnostic de santé mentale, on avait des groupes de diagnostic de la personnalité par catégorie. Donc vous aviez la catégorie, par exemple, borderline, antisocial, narcissique, etc. Et donc on faisait les diagnostics d'un d'une catégorie de problèmes de personnalité, de troubles de la personnalité. Et là, dans la CIM 11, donc ça reprenait un petit peu ce qu'il y avait aussi dans le DSM, c'était à peu près la même chose. Et là, dans la CIM 11, on passe à quelque chose d'une dimension. Ça veut dire qu'il y a des critères pour diagnostiquer un trouble de la personnalité de manière générale, mais il n'y a plus les différents groupes ni les différentes catégories de troubles de la personnalité. En fait, à partir du moment où on diagnostique les troubles de la personnalité, on va ensuite mettre des degrés d'importance du trouble, donc qui vont être faibles, modérés, sévères. Et c'est ça qui va déclencher finalement ce qui est ensuite déclenché par le diagnostic. Donc par exemple des droits financiers, mais aussi des traitements médicamenteux éventuellement. Alors dans la CIM 11, ils ont quand même gardé le trouble de la personnalité borderline parce que c'est un trouble qui est le plus fréquemment diagnostiqué. Voilà, il y a un historique auquel ils disaient on est un peu attaché avec ce trouble-là, mais sinon d'une manière générale, il y a vraiment cette dimension. Donc la dimension, c'est de faible à sévère, mais plus par catégorie, donc c'est-à-dire plus par nom de trouble de la personnalité. Et donc dans le DSM-5 en 2013, on était toujours dans cette vision catégorielle. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans la révision du texte, on se rapproche de ce qui se passe dans la CIM. Alors on a une double façon de diagnostiquer. Donc ils ont gardé quelques catégories, mais surtout ils ont introduit le diagnostic dimensionnel qui est très nouveau. Par contre, de leur côté, ils ont gardé plus de catégories que seulement le trouble de la personnalité borderline qui a été le seul gardé dans la CIM-11. Alors tout ça, c'est quand même une révolution dans l'histoire de la manière de diagnostiquer les troubles de la personnalité. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des nouveaux tests par rapport à ces nouveaux critères de diagnostic. Parce qu'à chaque fois que vous avez un diagnostic, les tests qui sont faits, ils sont basés sur justement ces critères diagnostiques. Et c'est pour ça, parfois, il y a des personnes qui disent « mais la science ne fait pas tout, ça sert à rien ». Bah si, la science, elle nous sert à avoir un langage commun pour pouvoir ensuite faire des tests qui vont nous permettre d'évaluer. Après, bien sûr, c'est toujours très important d'individualiser chacun de ces diagnostics, puisque c'est pas comme sur une imagerie médicale où vous pouvez voir voilà c'est ici et donc c'est ça le diagnostic, ce sont des faisceaux d'indices, mais voilà, il nous faut des critères déterminés par une sorte de consensus scientifique, on pourrait dire, même si je suis d'accord, ils sont toujours perfectibles, mais ils nous permettent une base commune pour ensuite pouvoir faire ces diagnostics. Parce que derrière, là, comme je disais, il y a des déclenchements importants pour certaines personnes, soit financiers, soit médicamenteux, et sans ces diagnostics, ben, on ne peut pas les enclencher. Donc du coup, il va falloir créer des nouveaux tests qui sont basés sur ces nouveaux critères diagnostiques, et donc ceux qui sont faits pour l'instant, l'intervenant disait, ils sont quand même encore très difficiles à utiliser, donc malheureusement, pour le moment, ça va rester probablement un petit peu conceptuel dans un premier temps, parce que utiliser ces tests-là, ça prend un temps fou, la manière de faire la cotation est très compliquée, très complexe, et donc il y a des chances qu'on reste sur les anciens tests avec les anciens diagnostics, mais petit à petit, voilà, ça va être important de pouvoir passer à cette nouvelle vision des choses qui, a priori, est plus proche de la réalité scientifique. Puisque toutes les recherches semblent nous montrer que la réalité catégorielle n'est pas très utile pour traiter les patients et leur proposer les bons traitements, parce que en fait, il y a beaucoup de comorbidités. Comorbidité, ça veut dire qu'on a plusieurs troubles en même temps, il y a des symptômes qui se chevauchent, donc voilà, c'est trop complexe, et donc ça ne permet pas vraiment de bien aider les patients pour vraiment les soulager de leurs troubles. En revanche, la vision dimensionnelle serait beaucoup plus utile. Je m'arrête là pour cette conférence, mais je vous en reparlerai bientôt parce que je vais vraiment m'intéresser à cette traduction du DSM-5 révisé et je verrai un petit peu ce qu'il y a dedans. Et certainement que dans une lettre psy, je vous en redirai quelque chose. Je trouvais que cette conférence, elle était vraiment bien liée à la toute première sur le fait que la sensibilité était sociale, parce que ben, ça nous montre bien toutes ces évolutions, qu'un diagnostic, c'est aussi social et culturel. Là, le DSM et la CIM sont utilisés de manière internationale pour faire des diagnostics, mais en réalité, comme vous voyez, ben, ce sont des manuels qui évoluent, et donc ça nous montre bien que chaque diagnostic est aussi basé sur une manière de voir la pathologie, la normalité, la souffrance, et à quel seuil on détermine que c'est tel le traitement qu'on va donner, ou c'est à partir de quel seuil on estime qu'il y a une pathologie ou pas. Donc ça faisait vraiment bien ce tuilage sur la question sociale que vraiment j'essaie d'introduire de plus en plus dans les thérapies que je mène, parce que en tout cas dans mes formations, celles que j'ai suivies, j'ai trouvé que c'était vraiment absent, alors que c'est très important, je crois. Dans la quatrième et dernière conférence de la journée, on a parlé d'une approche de psychothérapie, et j'attendais vraiment beaucoup cette conférence-là parce que ça traitait de l'approche de thérapie qui s'appelle la thérapie centrée sur le transfert. Alors pourquoi elle m'intéressait alors qu'elle est d'origine psychanalytique, et est-ce que si vous me suivez, bah vous savez que la psychanalyse c'est pas une approche qui me parle, parce qu'en fait j'avais lu que c'était une des approches EBP, donc Evidence Based Practice, c'est-à-dire des approches de thérapie sur lesquelles il y a beaucoup de recherches et qui ont démontré des résultats vraiment intéressants pour les troubles de la personnalité borderline. Et j'avais vu que voilà, ça avait un bon niveau de preuve. Donc ça fait partie des quatre approches qu'on appelle donc EBP, donc sur lesquelles il y a beaucoup de recherches et de résultats montrant que c'est assez efficace pour les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité. Les autres, c'est la thérapie comportementale dialectique de Linehan. Il y a la thérapie des schémas et la mentalisation. La mentalisation, je vous en reparle un petit peu plus tard, puisqu'il y a eu aussi une conférence à ce sujet. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette thérapie, vous pouvez lire par exemple l'article de Thomas Raberon sur l'évaluation des psychothérapies psychanalytiques. Il en parle à un moment dans cet article-là qui est très bien foutu, et puis vous avez des références à ce sujet. Et donc c'est une approche de thérapie dans laquelle on va donc utiliser la psychanalyse, mais surtout centrer sur le transfert. C'est pour ça que je vous dis régulièrement que oui, la psychanalyse, même si elle ne me parle pas pour différentes raisons, et notamment sur des concepts que je trouve qui sont trop éloignés de ce qui est aujourd'hui reconnu comme scientifique. Mais par contre, si on travaille sur le transfert, ça donne quand même des résultats vraiment intéressants. Et on travaille en fait sur l'ici et maintenant. Ça veut dire que, a priori, on va assez peu questionner l'histoire des patients, mais on va utiliser les conséquences de cette histoire dans la thérapie. C'est-à-dire que, en fonction de la personnalité, comment elle s'est construite, on pourrait dire par rapport à la thérapie des schémas précoces inadaptés qui se sont construits, des troubles de l'attachement, des traumatismes, et en fait, le patient ou la patiente va se présenter avec des particularités relationnelles et donc va faire des transferts spécifiques particulier dans la thérapie. Et donc là, l'intervenant nous expliquait comment il fait quand il a des patients qui s'agacent après lui, qui s'énervent après lui, ou qui au contraire pensent que leur psy veut les manipuler, et comment il fait pour interroger ça avec eux. Alors parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais travailler sur le transfert, c'est très malaisant en thérapie, quand on nous demande qu'est-ce que vous imaginez qu'il y a dans ma tête, quand le psy vous demande ça, qu'est-ce que vous imaginez qu'il y a dans ma tête, alors moi, je me sens super mal à l'aise parce que ça me gêne trop, etc. » Mais en fait, je pense pas que ce soit la thérapie ou l'approche qui peut être gênante, c'est en fait la manière dont ça va être amené. Oui, c'est vrai que ça peut créer une proximité particulière, ça crée beaucoup d'intimité dans la relation thérapeutique, mais justement, je crois que c'est très utile parce que ça permet d'avoir des feedbacks sur la manière dont on est en relation. Alors là, ce qui était encore plus intéressant à mes yeux, c'était qu'il avait centré son propos, donc c'était un homme qui faisait cette conférence, donc qui est psychothérapeute américain, parce qu'en France, on ne la rencontre pas tellement cette approche, et d'ailleurs, j'en ai pas trouvé de livre traduit pour pouvoir approfondir la question. Du coup, il a, lui, centré sa conférence sur les troubles de la personnalité narcissique, et non pas borderline. Pourquoi je dis que c'est important ça? C'est parce qu'en réalité, donc dans les troubles de la personnalité, celui dont on parle le plus, c'est le trouble borderline, et même si parfois, comme j'ai pu expliquer, ça peut être difficile à vivre socialement parce qu'il peut y avoir de la discrimination, mais alors le trouble de la personnalité narcissique, j'imagine que quand vous m'entendez parler de ce trouble, pour certaines personnes, ça fait le lien avec le pervers narcissique, dont on a parfois beaucoup parlé, or ce n'est pas la même chose, et puis pour d'autres personnes, on va dire, oui, mais le trouble de la personnalité narcissique, déjà ces gens ne viennent pas en thérapie, ce qui n'est pas vrai, et puis ces gens ne veulent pas changer, ils ne peuvent pas changer, et en fait, c'est pas la réalité. J'avais suivi une formation il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, avec Dolores Mosquera, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de cette personne, qui elle aussi travaille en EMDR dans une clinique qu'elle a créée pour traiter les troubles de la personnalité. Et elle traite des troubles de la personnalité borderline, comme beaucoup d'approches de thérapie, mais pas seulement, aussi des troubles de la personnalité narcissique. Et j'avais beaucoup aimé sa formation parce que je trouvais que ça déstigmatisait un petit peu ce trouble qui fait que généralement, quand on parle de troubles de la personnalité narcissique, vraiment c'est comme si voilà, on pouvait rien pour eux, on ne veut pas les traiter, on ne peut pas les traiter. Or, c'est un travail vraiment important à faire avec ces personnes, ne serait-ce que parce que du fait de leurs troubles, elles peuvent aussi créer des impacts vraiment négatifs auprès d'autres personnes, et donc c'est d'autant plus important de les traiter. Et donc j'ai vraiment aimé que non seulement il nous parle de cette approche de thérapie que je trouvais très intéressante et qui nous montre comment il s'y prenait, mais aussi qu'il parle de ce trouble-là qui est parfois encore plus stigmatisé que d'autres troubles de la personnalité. Donc ce premier jour s'est terminé sur cette conférence-là, et puis donc j'étais ravie, c'était passionnant, donc j'étais mangée avec mes collègues, et puis on a profité de Dijon, qui est une chouette ville que je ne connaissais pas du tout, et puis on s'est allé se coucher, et le lendemain on s'est réveillé pour aller à la deuxième journée. Alors la deuxième journée, à ce moment-là, il fallait choisir ses conférences, et donc on a choisi ensemble par rapport au thème, puisqu'on ne connaissait pas du tout les intervenants. Et je pense que je me suis un petit peu trompée par rapport aux intérêts que j'avais. J'avais choisi une première conférence sur la prise en charge TCC des patients qui s'automutilent. Donc la TCC, c'est une approche que je connais un petit peu, mais c'est pas ma spécialité puisque moi je suis spécialisée en psychotrauma. Même si en psychotrauma, notamment en EMDR ou même en thérapie des schémas, on a des éléments qui viennent de la TCC, c'est pas non plus mon approche de thérapie, donc j'étais intéressée. Mais finalement, j'étais un petit peu déçue parce que dans cette conférence, j'ai pas appris grand chose. Ça veut pas dire que c'était pas intéressant, mais par rapport à ce que je connaissais déjà, finalement, ce sont des étapes qu'elle a décrites. Donc pour elle, il y avait 5 étapes à utiliser pour travailler avec ces patients qui sont auto-agressifs. Mais en fait, ce sont les mêmes qu'on aurait pu, à mon avis, utiliser dans n'importe quelle approche de thérapie. C'était pas spécialement centré TCC. Alors, je vous les donne si ça vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir. Donc elle parlait en première étape de faire de la restructuration cognitive. Ça, c'est vraiment la base en TCC, c'est-à-dire de modifier les pensées, notamment négatives, que ces personnes ont en général sur elles-mêmes, mais aussi sur le monde et sur les autres, donc de faire ce travail-là. En deuxième, elle parlait d'un travail d'acceptation émotionnelle, mais elle parlait de faire ça avec les colonnes de Beck. Donc pour moi, ça restait quand même assez cognitif par rapport à d'autres approches de thérapie avec lesquelles je travaille, où quand on parle d'acceptation émotionnelle, on est vraiment dans un travail corporel, émotionnel, et beaucoup moins de la pensée. Mais bon, elle faisait ça avec les colonnes de Beck. En troisième, de faire de la psychoéducation, donc c'est-à-dire d'expliquer aux patients des éléments psychologiques, finalement, de comment fonctionne le cerveau, de comment fonctionnent les relations, de connaissances, finalement, de transmettre des connaissances aux patients. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant dans quasiment toutes les approches de psychothérapie. En quatrième, elle parlait de faire un travail d'affirmation de soi et d'apprendre à dire non, parce que ce sont des patients régulièrement qui ont vraiment une estime d'eux-mêmes qui est très très basse. Et puis en cinquième, de développer des éléments sociaux pour que ces personnes qui sont régulièrement très seules ou qui ont des contacts sociaux parfois toxiques puissent développer de meilleures relations avec les autres et puissent être soutenues pour ne pas vivre seule avec toutes ces souffrances et puis aussi développer un épanouissement personnel. La deuxième conférence est une conférence qui m'a un petit peu tendue. D'ailleurs, j'ai pas assisté jusqu'à la fin. Je suis partie avant la fin parce que ça me convenait pas. J'accrochais pas du tout avec le parti pris qui était fait ici. Alors le sujet était assez intéressant. Ça consistait à parler des troubles de la personnalité borderline à l'adolescence et de savoir si le concept était pertinent ou pas à cette époque de la vie. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça revient toujours à cette histoire de diagnostic qui n'est pas quelque chose de figé dans le marbre ni dans le temps. Et donc ça m'intéressait de voir comment ça pouvait être discuté. Et alors la première chose que j'ai pas beaucoup appréciée, c'est que les personnes utilisaient des termes très spécifiques psychanalytiques. Alors c'est pas des termes qui me sont complètement étrangers puisque j'ai fait mon master moi dans une fac psychanalytique, donc je pouvais les comprendre, mais je trouvais que c'était du coup pas très pédagogique parce que j'avais pas conscience que ça allait être psychanalytique, donc pour des personnes qui éventuellement pratiqueraient pas cette approche, c'était un petit peu opaque à mon sens, ce qui fait que peut-être ça permettait pas vraiment de comprendre exactement le propos. Donc il y avait des termes comme secondarisation, achoppement qui étaient utilisés, c'est des termes que moi j'ai jamais vu utilisés ailleurs qu'en psychanalyse, et j'ai trouvé dommage qu'ils soient pas plus explicité pour que ce soit plus concret finalement ce qui soit décrit. Et d'autant plus que ça tranchait vraiment avec l'intervenant de la veille qui avait présenté la thérapie centrée sur le transfert, qui est aussi d'origine psychanalytique, où lui, il avait défini tous les termes qu'il utilisait pour vraiment être très pédagogue et expliquer ce que ça signifiait pour que toutes les personnes présentes, même si elles ne pratiquent pas la psychanalyse ou ne la connaissent pas, pouvaient quand même s'approprier l'approche et s'y intéresser. Et puis le moment où vraiment ça a été le tournant pour moi, où je me suis dit que j'accrochais pas du tout, j'ai gardé la citation parce que ça m'a marqué. La personne a dit « Les études sont le reflet d'une société de la catégorie qui veut que tout ce qui n'a pas de nom en psychiatrie n'existe pas. » Ce qui signifie que le fait de vouloir faire des études scientifiques EBP, donc Evidence-Based Practice, basées sur les preuves, c'est une manière de dire qu'on veut absolument tout catégoriser, et si c'est pas catégorisé, s'il n'y a pas de case en gros, ça n'existe pas. Bien sûr, je n'adhère pas du tout à ça. Pour moi, je comprends qu'on puisse dire que les études ne sont pas tout et ne suffisent pas et ne servent pas à enfermer les gens. Ça doit vraiment pas être leur objectif et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Des études scientifiques en psychologie et en psychothérapie, c'est pas la même chose que dans d'autres sciences qu'on pourrait appeler dures quelque part, même dans ces sciences-là, on peut parfois arriver à des choses qui sont plus aussi simples que ça, mais en tout cas, c'est des sciences qui sont à la base des sciences humaines, mais ça ne veut pas dire, selon moi en tout cas, qu'on ne doit pas chercher des preuves de ce qu'on fait et surtout que c'est pas néfaste pour nos patients, parce qu'on sait qu'il y a 10% des patients qui vont plus mal après la thérapie qu'avant. Donc c'est très important selon moi de quand même faire des études. Bien sûr, elles sont imparfaites, bien sûr, il y a des biais, mais ce qui compte, c'est pas tant les résultats qu'on en donne, mais la recherche qu'on en fait et qui finalement, on a pu le montrer pendant toute la première journée, qui finalement évolue avec le temps en fonction des connaissances, en fonction des sociétés et qu'on remet tout ça en perspective. Donc j'ai trouvé que c'était une phrase qui sanctionnait vraiment la science. Or, pour moi, c'est un peu dangereux de dire qu'on voudrait se passer de la science en cherchant des preuves de certaines choses, même si on les trouve pas. Pour moi, c'est vraiment important de l'avoir. Donc voilà, à ce moment-là, ça coïncidait plus du tout avec ma manière de voir les choses. Comme je dis, les études scientifiques, bien sûr, ça fait pas tout, mais ça nous permet de parler, de définir des choses, de pouvoir parler sur des choses communes, c'est-à-dire que même d'une culture à l'autre, si on a une définition commune avec des critères communs, même s'ils sont imparfaits, ça nous permet de savoir exactement de quoi on parle. C'est d'ailleurs le problème qu'on a aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Il y a plein de gens qui parlent de l'hypersensibilité, mais quand on regarde les études, on voit bien que c'est pas du tout défini de la même manière selon les études, et donc les choses qui sont étudiées sont pas vraiment les mêmes. Si on en avait un jour éventuellement un diagnostic, ça veut dire qu'on considérerait de base que c'est un trouble, donc c'est une autre question, mais si on avait une sorte de diagnostic, ou en tout cas une sorte de définition commune du fait de certaines études, alors ce serait, on pourrait justement approfondir comment ça fonctionne, d'où ça vient exactement, selon quel trouble, dans quel trouble on les retrouve, est-ce que c'est un trouble ou c'est pas un trouble, enfin on pourrait faire des études là-dessus. Et de même, ça permet de savoir aussi ce que certains concepts, enfin, les études scientifiques permettent de savoir que certains concepts qu'on utilise dans nos cabinets ou qu'on observe dans nos cabinets, donc de manière empirique, est-ce qu'on peut les généraliser à l'ensemble du fonctionnement humain ou pas? Donc ça reste quand même important. Bon voilà, j'en termine là-dessus. Et je passe donc à la troisième intervention de cette deuxième journée, qui était sur la mentalisation. Donc la mentalisation, c'est une autre approche de thérapie, on va dire, et donc c'est une autre des quatre approches EBP pour les troubles de la personnalité. Et donc ça ressemble vraiment à la thérapie centrée sur le transfert, mais de manière beaucoup plus cognitive. Ça m'a donné l'impression que la thérapie centrée sur le transfert et la mentalisation, finalement, c'était un peu comme la même façon de travailler, avec des spécificités, soit un peu plus psychanalytique, soit un peu plus TCC. Et finalement, c'est ça, leurs origines. Il y en a une qui vient de la psychanalyse et l'autre qui vient des TCC. Donc cette fois, comme j'avais pas trouvé de livre traduit en français sur la thérapie centrée sur le transfert, j'ai acheté celui sur la mentalisation. Donc il y en avait plusieurs. L'auteur qui est le plus connu, c'est le psychiatre Fonagy, Peter Fonagy. Peut-être vous l'avez déjà vu en vidéo dans The Great Psychotherapy Debate, dont je vous parle régulièrement, où il débat avec Bruce Wampol de l'efficacité des psychothérapies. C'est vraiment hyper intéressant. Mais bon, comme j'ai apprécié là l'intervenant, j'ai acheté son livre à lui, parce que c'était une manière de le rémunérer aussi. Donc là, c'est pareil, je ne l'ai pas encore lu, il n'est pas très grand, peut-être que je vous le proposerai dans un psychobook. Pas très grand, il n'est pas très gros. Je vous proposerai peut-être dans un psychobook, où on peut voir un petit peu comment on travaille. Donc c'est surtout pour travailler dans l'ici et maintenant. À nouveau, on va moins aller, ça c'est plus fréquent en TCC, où on va beaucoup moins dans le passé que dans d'autres approches de thérapie, mais on va utiliser les conséquences du passé dans la thérapie et puis comment ça se passe dans la relation. Et donc si vous avez suivi les stories Instagram pendant que j'étais au congrès, c'est de là que j'ai tiré la slide que je vous ai transmise, où on rappelait quand même que l'approche de psychothérapie semble ne jouer que pour 15% dans la réussite d'une psychothérapie. Donc ça rappelle quand même que quand on a des gardes-chapelles à se dire « mais non, c'est mon approche qui est la meilleure, non c'est la mienne », on parle de 15%, c'est-à-dire ça joue quand même, et c'est important d'avoir une approche, ça joue dans 15%. Et le reste, donc ça vous pouvez retrouver ça dans l'étude de Lambert et Lambert, je crois que c'est 93, mais si vous lisez le livre « L'évaluation des psychothérapies » dont je vous parle absolument tout le temps, vous retrouverez cette étude, et puis c'est pourcentages. Les autres critères, donc c'est les facteurs communs. Là, si vous suivez l'atelier Créer vos plans de traitement, vous savez exactement de quoi je parle, puisqu'on parle beaucoup des facteurs communs dans cet atelier-là. Donc ce sont les éléments qui font qu'une thérapie fonctionne et qu'on retrouve dans la plupart des psychothérapies. Le milieu extérieur joue pour 40%. Ça veut dire qu'en fait, nous, on voit nos patients une fois par semaine, une fois par 15 jours. Mais si en fait, dans leur quotidien, ensuite, tout se passe hyper mal, nous, on fait un pas en avant, mais il y en a trois qui sont faits en arrière après. après, donc en fait, ça sert à rien. Donc le fait qu'ils vivent dans un certain type d'environnement qui peut leur permettre d'expérimenter les choses qu'ils apprennent en thérapie, de ressentir les choses différemment, de développer des éléments sociaux dont on parle en thérapie, ou bien le contraire, bah, ça aussi, ça va jouer beaucoup, et ça, c'est quasiment la moitié de la thérapie. C'est-à-dire que nous, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, et c'est très important aussi de travailler à permettre aux patients d'avoir un environnement qui maximise les effets de la thérapie, parce que sinon, c'est pas très efficace, donc c'est 40%. Et puis il y a aussi les événements de leur vie qui vont faire que il y a des choses qu'on peut absolument pas maîtriser ni prévoir, et qui vont jouer aussi sur leur humeur et leur personnalité. Et puis ensuite, ce qui reste, en fait, c'est ce qu'ils appellent le placebo. Alors si vous avez lu les lettres psy de ces dernières semaines, j'en ai parlé un petit peu de l'effet placebo et de combien ce qui parfois dans d'autres domaines comme la médecine est du placebo, comme l'empathie par exemple, chez nous ça fait partie des facteurs communs qui sont vraiment des facteurs traitants. Donc voilà, je discutais un petit peu de qu'est-ce que c'est le placebo en thérapie et est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qu'on a comme étude là-dessus. Mais là, il disait que donc les attentes des patients finalement sont le placebo de la thérapie, et donc ça comprend notamment la réputation en fait. Peut-être vous l'avez déjà vécu, si vous avez été voir un ou une psy qui vous était recommandé par un médecin ou une médecin en qui vous avez confiance, il y avait déjà quelque chose qui était déjà créé dans l'alliance thérapeutique, et ça a un impact sur le fait que vous alliez déjà mieux. Donc voilà, les attentes des patients correspondaient pour lui à l'effet placebo. Donc voilà, les éléments qui font qu'une thérapie fonctionne en très gros. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, on est en train de reprogrammer la conférence sur le secret des thérapies qui marchent, où je vous donne un petit peu comment on fait une recherche en psychothérapie, à quoi ça sert, quels sont les facteurs de preuve qu'on a aujourd'hui de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui reste encore à faire, etc. On devait la faire à Lyon, mais elle a été annulée au mois d'octobre, et donc là, on est en train de voir avec d'autres personnes qui nous ont proposé un lieu pour pouvoir la refaire bientôt. Donc tous ces détails-là vous seront donnés dans cette conférence. Je vous en reparle bientôt dans une lettre psy, dès qu'on est un peu plus au clair. Et puis, en quatrième, le deuxième jour, donc j'ai été voir une conférence absolument passionnante sur l'approche neurodéveloppementale des addictions. Et là, à nouveau, j'ai pas trouvé de livre de la personne qui donnait cette conférence. C'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, ça expliquait comment, dans les addictions, il y a une part, en fait, qui est génétique. Ça m'a vraiment interpellée, parce que dans les formations que j'ai pu avoir sur le sujet, on parlait vraiment de l'environnement et des traumatismes, qui jouent aussi. On a vraiment, dans les études ACE, notamment, dont je vous parle régulièrement, de Felitti, on a des éléments qui disent que les traumatismes peuvent générer plus tard des addictions, mais là c'était vraiment une approche neurodev, et donc cet élément génétique m'a intéressé. Ça veut dire vraiment qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres aux addictions. Alors il a décrit un petit peu comment c'est très important la prévention dans les addictions, c'est-à-dire de prendre en charge notamment dès l'enfance tout un tas de choses sur le plan émotionnel pour que ensuite ces personnes ne viennent pas plus tard à l'âge adulte utiliser les substances comme des calmants émotionnels. Et donc voilà, il parlait vraiment de toutes les étapes différentes qu'il y a avant qu'on puisse diagnostiquer une addiction. Il y a des pré-addictions, il y a des facteurs de risque, et voilà, quand on remonte dans le temps, c'est comme si les personnes qui ont des addictions, elles s'étaient préparées, bien sûr inconsciemment, où les événements les avaient préparés avant, et donc il parlait de ce qui était très important, et notamment que quand il y a des consommations avant 14 ans, alors ça c'est un facteur de risque extrêmement important pour plus tard avoir des addictions qui sont très difficiles à supprimer. Donc tout ça rejoignait la formation que j'avais faite au Safety sur EMDR et addiction, la manière de travailler, donc notamment en lien avec les ACE, qui disaient que si on peut traiter tout un tas de choses émotionnelles et notamment les traumatismes dans l'histoire des personnes, alors on va pouvoir les aider à supprimer leurs addictions. Mais ça signifie aussi, en lien avec cette conférence, que si on peut faire en sorte que les personnes qui sont dans des facteurs de risque importants génétiques mais aussi sociaux et émotionnels, si on peut les aider avant, en amont, et donc à l'adolescence notamment, à traiter ce qui est problématique pour eux, on va leur permettre notamment de probablement de ne pas développer d'addiction à l'âge adulte et de trouver d'autres options pour apaiser leurs émotions. Donc là-dessus, je vous en reparlerai aussi parce que la personne a parlé de beaucoup d'études qui sont très récentes et qui étaient très intéressantes. Comme il n'a pas eu le temps de les développer toutes, je les ai bien notées dans mes petites notes, et donc je vais aller les lire, et quand je lirai ça, je vous en ferai des retours, notamment dans les lettres psy. Donc là, on avait fait 4 conférences dans la journée, il en restait 2, mais on était bien fatigués avec mes collègues, donc on a décidé de faire l'école buissonnière et de sécher pour aller voilà, se balader un petit peu dans la ville de Dijon voilà, et digérer un petit peu tout ce qu'on avait entendu. Avant de partir, je suis repassée au stand de librairie. Et puis, j'ai acheté un autre livre pour une nouvelle psychiatrie, Proposition. Voilà, si vous suivez nos publications sur les divers réseaux sociaux ou sur notre lettre psy, vous savez que l'histoire en fait, de la psychologie, de la psychopathologie, de la psychiatrie, m'intéresse beaucoup, notamment à cause de voilà, ces contextes qui évoluent et pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc là, voilà, j'étais intéressée donc, de voir un petit peu ce que l'état des lieux qui est fait aujourd'hui de la psychiatrie, hein, avec la pénurie de psychiatres, mécontentement des soignants, recherche clinique en berne, augmentation de la prévalence des troubles, parcours de soins douloureux, patients sacrifiés et familles en détresse, la psychiatrie est proche du point de rupture. Donc il y a déjà un état des lieux qui est fait, effectivement, on ne peut pas dire que la psychiatrie soit le point fort de la médecine aujourd'hui et la psychologie suit hein, bien sûr et du coup voilà après il y a des propositions qui sont faites donc je suis très intéressée même sur le plan politique de voir ce qui est proposé là-dessus donc là c'est pareil peut-être je vous proposerai en psychobook même si j'ai l'impression que c'est pas toujours quand je vous en propose des livres sur ces thèmes-là c'est vous votez pas forcément pour eux mais bon peut-être je vous les proposerai quand même et puis bah, on en reparlera bientôt. On a donc fini notre petite balade et notre soirée et le lendemain il y avait donc une demi-journée qui restait sur l'aspect médico-légal des troubles de la personnalité. Et donc, il y avait deux personnes qui étaient là. Je crois que c'était une psychologue et une psychiatre qui font en fait des expertises pendant les procès judiciaires auprès des personnes qui sont notamment accusées. Et donc, elle parlait des enjeux hyper importants qu'il y a. Alors, ça rejoint un petit peu un roman que j'ai lu récemment. Alors, c'était pas du tout sur l'expertise psychiatrique, c'était sur une juge antiterroriste, mais qui expliquait qu'en fait, quand on veut mêler le judiciaire avec la psychologie, puisque dans des procès, en fait, l'état psychiatrique des personnes joue dans les décisions qui sont rendues, et en fait, c'est rendu par des êtres humains qui doivent évaluer d'une manière qui n'est pas noire ou blanche, finalement, si une personne est responsable de ses actes ou pas, et puis ensuite faire des propositions. Est-ce qu'on met cette personne en prison? Est-ce qu'on la met plutôt avec une injonction de soins? Est-ce qu'on la met plutôt dans un hôpital psychiatrique, ou avec des médicaments, ou avec un suivi obligatoire? Et en fait, ça a des impacts très différents, notamment sur les familles des victimes, parce que quand vous annoncez lors d'un procès que finalement l'auteur d'actes a été finalement non pas mis en prison, mais sous injonction de soins, parfois les personnes le prennent très mal parce que c'est pas une punition à laquelle elles s'attendaient ou dont elles avaient besoin éventuellement pour faire leur deuil. Donc elles expliquaient combien leur métier était à la fois extrêmement difficile, parce que bah, il faut prendre des décisions dans l'expertise, qui ont des conséquences sur tout un tas d'acteurs juridiques et judiciaires et aussi sur les familles. Et donc de mêler finalement la psychologie au judiciaire, bah, c'est pas facile, d'autant qu'elle disait qu'elle travaillait avec des personnes qui sont avocats et avocates, et elle disait en fait on n'a pas du tout la même culture, ce sont des personnes qui connaissent rien en tout cas dans leur expertise à elle, elle disait ce sont des personnes qui connaissent rien au fonctionnement du cerveau et à la psychologie et surtout c'est pas leur affaire, c'est pas ce que ces personnes recherchent, et donc on n'a pas le même langage, du coup pour se parler voilà, les avocats selon de qui ils défendent, ils veulent des peines, ils veulent parler en termes de peines, et c'est ça qui les intéresse, alors que ben, quand vous êtes psychiatre ou psychologue ou psychothérapeute, ben, votre enjeu c'est comment je protège au mieux à la fois la personne qui a perpétué les actes et à la fois ben, d'autres personnes. Donc c'est-à-dire je dois trouver un juste milieu. Est-ce que si je mets cette personne en prison, finalement ça va faire que sa vie va être détruite ou peut-être même elle va finir ses jours en prison et donc c'est pas une bonne option. Si je la libère, est-ce qu'elle va perpétuer d'autres actes? Ça c'était vraiment tout l'enjeu du livre de Karine Thuil, donc qui s'appelle La décision, justement, dont je vous parlais sur la juge antiterroriste. Voilà, donc c'était vraiment, je trouvais intéressant. Donc c'était presque un. Alors, il y avait un état des lieux aussi où elle disait qu'elles étaient. Enfin, voilà, elles font un métier qui est très peu rémunéré, très peu reconnu. Or, il est très difficile parce qu'il y a tous ces enjeux-là, justement. Et sinon, voilà, c'était un débat un peu éthique, philosophique, psychologique, humain, sociologique, que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que c'est un domaine que je connais très peu. J'ai les patients qui ont pu vivre des expertises, chacun à leur manière, chacun dans des conditions et des contextes différents, mais je connaissais pas le point de vue, finalement, des personnes personnes qui font ces expertises. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir aussi cette vision des choses. Voilà, et bien écoutez, donc c'était la fin de ce congrès. Le prochain congrès que je ferai, ce sera celui de la FTD au mois de mars. Je pourrais peut-être vous en reparler. Dites-moi si ce type de format vous intéresse, ou je vous parle un petit peu de ces congrès pour vous donner envie d'y aller et de découvrir en fait ces nouvelles façons de penser, autres que peut-être ce que vous avez l'habitude de lire, parce que là, on voit d'autres manières de penser. Enfin, notamment là, quand on va au congrès de français de psychiatrie ou à la société d'information psychiatrique, là, on voit une vision souvent psychiatrique de la chose qui n'est pas toujours la même chose quand on a des psychologues ou des psychothérapeutes qui nous forment ou qui nous parlent de leur pratique et de leurs questionnements et de leurs expertises.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.